Bonjour à tous et à toutes. Donc bienvenue sur cet entretien de la chaîne de l'anticapitaliste à laquelle vous pouvez d'ailleurs vous abonner. C'est presque un geste militant. Aujourd'hui, on a décidé d'avoir un entretien sur une question qui fait couler beaucoup d'encre, qui suscite beaucoup de discussions, l'intelligence artificielle et l'arrivée fulgurante du chat GPT. Alors, on a fait appel évidemment à un béotien en la matière, c'est-à-dire moi, pour mener un entretien avec quelqu'un qui ne l'est pas, qui est Hubert Krivine. Donc, Hubert, avec qui on a fait déjà plusieurs discussions, soit à la librairie La Brèche, soit à l'université d'été du nouveau parti anticapitaliste, pour te présenter sous ton meilleur profil, comme tu me l'as demandé.
Merci.
Tu as été physicien, universitaire, chercheur à Orsay et à la faculté de Jussieu. On te doit de nombreuses choses, dont entre autres avoir participé à ce que Alain Krivine soit la quatrième internationale. On ne te remerciera jamais assez, évidemment, pour ça. Et dans le domaine qui nous intéresse, c'est aussi un certain nombre de contributions qui avaient été d'ailleurs les bases de notre discussion commune à l'université d'été et à la librairie, dont un qui s'appelle Petit traité de hasardologie, où en gros tu pourfends un peu l'usage abusif, on va dire ça comme ça, de la loi du plus grand nombre, des statistiques, des algorithmes, etc. La question ensuite traitée dans un autre ouvrage qui s'appelle Comprendre sans prévoir et prévoir sans comprendre, notamment la dimension scientifique, ce que ça implique aujourd'hui, l'intelligence artificielle, en tous les cas je l'ai compris comme ça, chez un certain nombre de têtes pensantes, puisqu'il paraît qu'il y en a des GAFAM, les Google, Apple, Facebook et consorts, dans le thème qu'aujourd'hui on pourrait finalement, sur la base des algorithmes, eh bien prévoir sans plus chercher à comprendre, alors que c'est un élément important et du point de vue scientifique et du point de vue du développement du type d'humanité, de société qu'on veut construire. Et puis enfin, est-ce que l'intelligence artificielle peut penser ou non, qui est donc la question qui nous amène à te ressolliciter cette fois-ci à propos donc de l'arrivée du chat GPT, qui est donc, ou pas, je ne sais pas, tu vas nous le dire, ce sera peut-être ma première question, un interlocuteur en ligne avec qui on peut échanger, sur quoi, qu'on peut faire travailler un peu à notre place, et qui remet un peu 100 balles dans la machine sur l'éternelle discussion de savoir quelle est la part de superviser dans tout ça et quelle est la part d'autonomie. Donc, comment toi tu définirais le chat GPT?
Bon, écoute, je te remercie de ta présentation qui me fait de la publicité. D'abord, il faut dire que le chat GPT, c'est une application particulière de l'intelligence artificielle. Donc, je vais d'abord peut-être commencer par répondre à la question. L'IA peut-elle, à l'aide de chat GPT, dépasser l'intelligence humaine? C'est une question très peu précise, mal posée. C'est pas toi qui l'as posée, mais c'est moi qui l'ai posée. Tout simplement parce que l'intelligence n'est pas définie. C'est pas très grave. Il y a plein de concepts comme le temps, le hasard, l'amour, Dieu, etc., etc., qui sont d'autant moins définis qu'ils sont évoqués. Il n'y a pas de définition axiomatique de ces choses-là. C'est leur ambiguïté qui fait leur intérêt en un certain sens. Par contre, la table, il n'y a pas de discussion sur ce que c'est qu'une table. Bon. On peut discuter donc quand même de l'intelligence sans l'avoir vraiment définie. N'empêche qu'à la fin, j'y reviendrai parce qu'on n'y coupe pas. Turing, qui est un des créateurs de l'intelligence, enfin de la notion d'intelligence artificielle, esquive habilement la question en disant, bon, il n'y a pas d'intelligence, mais il y a des preuves d'intelligence. Donc il a imaginé un dialogue entre une machine ou un homme, on ne sait pas, et un homme ou une femme. Et puis, au fur et à mesure que le dialogue se poursuit, l'homme ou la femme qui interroge doit deviner s'il a affaire à une machine ou à un être humain. S'il n'arrive pas à faire la distinction, on dit que la machine est intelligente. C'est semi-convaincant, c'est une façon d'esquiver, c'est malin. Enfin bon. Alors, avant d'attaquer la question elle-même, je voudrais faire une remarque. C'est que les discussions sur l'intelligence de la machine sont polluées par un effet de loupe. L'effet de loupe, les militants le connaissent, une manif, on monte trois bouteilles, trois poubelles qui brûlent et puis parier dans le sang. Bon, ça se manifeste comme ça. On oppose les résultats les plus stupéfiants, ceux qui marchent extrêmement bien. Par exemple, tu interroges GPT en lui disant quel est le sens de l'ordre désobéis-moi. Il te répond de façon étonnante que c'est contradictoire de façon circulaire. On ne peut pas y obéir. La réponse est étonnante. Ou bien il y a des résultats grotesques. Par exemple, j'ai appris récemment en interrogeant sur moi-même que j'étais mort, ce que j'ignorais. Bon, donc on trouve tout et n'importe quoi. L'autre effet de loupe, c'est la polarisation des grands des grands concepteurs de l'intelligence artificielle. D'un côté, il y a un monsieur qui s'appelle Lequin, qui est très très connu, qui est vraiment le pape de cette question, en tout cas en Europe. Il y croit. Il croit que l'IA va dépasser à terme l'intelligence humaine. Et de l'autre côté, il y a Chomsky ou Julia ou d'autres gens comme ça qui ne le croient absolument pas. Donc ce n'est pas des personnages secondaires. Et le fait que ces grands personnages-là y croient ou n'y croient pas entraîne facilement un biais de confirmation. C'est-à-dire les gens vont chercher ces gens-là à la confirmation de leur idée préconçue. Voilà. Alors, il y a des éléments vrais derrière, comme souvent. C'est pas, bon, ça vaut le coup d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces images virtuelles. Alors, on va simplifier. L'ancienne intelligence artificielle est l'ancienne traduction de type expert. C'est-à-dire, c'est un machin qui marche de façon transparente et explicable. C'est une logique de type « si, alors ». Votre enfant a de la fièvre, il a mal au ventre du côté droit, alors c'est probablement l'appendicite, etc., etc. Donc c'est une base de données qui est interrogée avec une série de questions en cascade et la machine répond parce qu'elle a été instruite par des professionnels. On comprend très bien ce qui se passe et c'est très clair et très net. Pareil pour les traductions expertes, c'est-à-dire il y a d'énormes dictionnaires qui sont engrangés par la machine, des règles de grammaire, et puis on y va quasiment, on s'efface de dictionnaire amélioré, on y va au mot à mot. C'est très mauvais en général, très très mauvais, mais enfin bon, c'était ça. Alors maintenant, c'est autre chose. Maintenant, si tu veux, elle est ce qu'on appelle fondée, l'ancienne machine est fondée, les anciennes machines fondées sur la déduction. Si, alors, elle est logique et on comprend ce qui se passe. Ça ne marche pas. Au bout d'un moment, ça ne marche pas et parce que les machines deviennent trop grosses pour être efficaces. C'est remplacé par le data mining, c'est-à-dire la recherche de corrélations sur des milliards de données. C'est ce qui s'appelle une démarche fondée sur l'induction. Alors, qu'est-ce que c'est que l'induction ? L'induction, c'est de dire que quand une propriété est vraie pour une fois, pour n fois, elle est vraie pour n plus une fois. Je te donne un exemple. Tes parents ont vécu jusque-là quelques milliers de jours, ils vont vivre un jour de plus, et toi aussi. Bon. Je te donne un autre exemple, peut-être moins frappant, qui fait que ça ne marche pas, évidemment. La journée dure 24 heures. Elles ont toujours duré 24 heures. Ben, c'est pas vrai. Avant, elles duraient 10 heures. Et demain, elles dureront beaucoup plus. Bon, c'est très, très lent, évidemment, mais en d'autres termes, l'induction ne fixe pas de limites. Elle n'a pas de théorie derrière. Elle se contente de projeter, d'anticiper ce qu'elle connaît déjà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil par la méthode inductive. Bon. C'est quand même très utile dans la vie courante. D'ailleurs, tu vis comme ça en pensant que tu vivras demain, sinon tu ne t'en sortirais pas. Pourquoi ? Parce qu'en général, les changements sont lents. Et donc, quand il fait beau à 17 heures, il y a une grande chance qu'il fasse beau à 18 heures. Et donc, c'est comme ça qu'on vit, et on vit très bien. Mais bon, il faut faire attention à ça. Je te donne d'autres exemples d'induction comme ça, sans théorie. Il y a une loi de Moore qui dit que chaque 2 ans, il y a un doublement de la puissance de calcul. C'est une loi qui est fondée sur aucune théorie, c'est simplement une donnée empirique. Bon, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'il y a des tas de raisons qui font qu'au bout d'un moment, ça va saturer. Il en va de même pour les extrapolations de l'intelligence artificielle. Ça ne marchera pas non plus, il n'y a pas de théorie derrière. On verra. Alors, donc c'est faux, mais pratique. Pratique. Deuxièmement, c'est faux parce que les corrélations n'indique pas nécessairement une causalité. Bon, ça c'est bien connu. Il n'y a pas de rapport entre la corrélation et la causalité. Tu es malade, tu vas à l'hôpital, c'est pas parce que tu vas à l'hôpital que tu es malade, il faut savoir dans quel sens ça joue. Et puis, bon, enfin, il y a plein de choses comme ça. Oui, oui, il y a plein. Enfin, on pourrait
statistiquement, il y a plus de probabilité de mourir à l'hôpital évidemment. Qu'ailleurs, donc il ne faut surtout pas aller à l'hôpital quand on est malade.
Absolument. Bon, la quantité de fake news sur les réseaux sont majoritaires. En moyenne, tu tapes un truc, c'est faux. Bon, tu n'as qu'à interroger ce que c'est que l'auriculothérapie, ce que c'est que l'homéopathie, etc., etc. Tu trouveras tout et n'importe quoi.
Dans les données auxquelles ChatGPT puisque donc le principe de l'intelligence artificielle, c'est en effet de stocker des milliards et des milliards et des milliards de données là où aucune intelligence humaine peut le faire de cette manière-là. Mais ces données, justement, parce que beaucoup se posent la question quand même, où est-ce qu'elle, quel est le périmètre, alors ça doit être défini par le logiciel, j'imagine, des poches dans lesquelles l'intelligence artificielle se permet ou non d'aller piocher telle ou telle donnée.
C'est une bonne question, on y viendra. Ah. Tout est dans le prompt, c'est-à-dire la requête que tu fais. Et c'est essentiel pour que ChatGPT marche un peu. On y reviendra parce qu'il y a une véritable usine maintenant de fabrication de prompts qui te permettront de trouver des résultats un peu plus en accord. Mais ce qu'il faut que tu comprennes bien, c'est que les données ne sont a priori pas triées. Tout est ajouté n'importe comment. C'est une démarche complètement différente de celle des sociologues quand ils font des analyses. Parce que eux, ils opèrent par quota. Et ça change tout pour les biais. Mais ça, on y viendra peut-être. Alors, surtout, je vais insister sur le fait que l'évolution, elle est dominée par les événements rares. Ça, c'est vrai en géologie comme en connaissance. En géologie, c'est la collision de la Terre avec Théia il y a 4 milliards d'années qui va donner naissance à la Lune. C'est un événement extrêmement rare. On ne serait pas là s'il n'y avait pas eu ça. Bon, mais je peux multiplier les exemples. Les météorites qui ont décimé les dinosaures, on ne serait pas là non plus si ce n'était pas arrivé. Enfin bon, c'est banal tout ça, mais il faut le savoir. Et ça, c'est pour la géologie, mais en connaissance aussi. Dans les connaissances, il y a très peu de connaissances, très 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 peu, qui sont révolutionnaires, au sens qui apportent quelque chose de complètement nouveau. Je pense à la théorie de la relativité, je pense à la mécanique quantique, qui ont complètement changé notre vie aujourd'hui. Il n'y aurait pas la relativité, même la relativité générale, ton téléphone portable ne marcherait pas. Enfin, la société serait complètement bloquée, les gens seraient désespérés. Bon. C'est important de piger que, par construction, ces événements rares, exceptionnels, mais décisifs, échappent au big data. Ils n'échappent pas au big data, mais ils sont rares dedans. Donc quand on ratisse large, on marginalise. Bon, ça, c'est
un exemple que je me souviens que tu avais utilisé, notamment, alors je ne sais plus l'occasion de quel ouvrage, mais comprendre sans prévoir et prévoir sans comprendre. Si on prend les indices de marée, par exemple, d'une centrale nucléaire, si on les prend en moyenne, évidemment, on n'a rien. Alors que ce qui compte, c'est l'élément rare d'indice de moyenne qui fait que, ou pas, le centrale nucléaire peut être emporté.
Bon, la surpopulation carcérale, en moyenne, elle est déjà considérable, mais ça veut dire que dans certains cas, elle est colossale, elle dépasse les 200%. Donc, encore une fois, ce qui est décisif dans l'évolution des sociétés, c'est les événements exceptionnels. Bon, ça, il faut bien le piger. Voilà pourquoi la science qui veut essayer de choper ces éléments exceptionnels ne peut pas marcher par induction, parce qu'elle les loupe, tout simplement. Elle les loupe souvent, disons. GPT, pour revenir, c'est une application d'IA. Elle est erronément utilisée comme on utilise Wikipédia. En fait, ça n'a rien à voir. Wikipédia pioche dans des connaissances humaines, c'est-à-dire des choses prédigérées, discutées par des humains. GPT pioche tout, y compris la poubelle. C'est complètement différent ce qui fait que quand tu interroges GPT, la notion de vrai disparaît complètement. Ce qui compte, c'est la notion de statistiquement arrivant. Bon, mais ça, il travaille un peu comme ton téléphone portable. C'est-à-dire, tu tapes un mot, je parle de GPT, tu tapes un mot, il cherche le mot voisin le plus utilisé après ce mot-là. Et puis il itère. À la rigueur, tu tapes une phrase, il cherche la phrase la plus voisine utilisée et il itère. Bon, et puis toc, 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 toc. C'est prodigieusement impressionnant ce qui se passe. Tu peux vraiment obtenir tout et n'importe quoi comme ça. Les choses les plus ahurissantes et les choses Donc, je répète, la notion de vérité est totalement absente de ChatGPT. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas en sortir quelquefois. Comme disait l'autre, le mélange de vrai et de faux est infiniment plus toxique que le faux pur. C'est pour ça que ça marche. Bon. Alors, peut-être qu'il faut que je réponde à ma promesse. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Je vais me hasarder sur quelque chose de très délicat. Il y a beaucoup de définitions, Je crois, je ne suis pas tout à fait le seul à dire ça, mais enfin, ce n'est pas tout à fait répandu. Je crois qu'il faut distinguer la pensée de l'intelligence. Je crois qu'on peut définir l'intelligence comme réaction d'adaptation d'un être vivant aux modifications de son environnement. Si tu prends une définition comme ça, qui est très 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 générale, Tu vas dire que les plantes sont intelligentes. Et oui, les plantes peuvent sécréter des antibiotiques, elles peuvent sécréter des produits chimiques, elles peuvent se déplacer, les forêts se déplacent quand les saisons évoluent. Les bactéries, ce n'est pas tout à fait des plantes, mais enfin, ce sont des êtres primitifs, disons, enfin, à notre point de vue, peuvent sécréter des biofilms pour se protéger. Enfin, bon, donc on peut être intelligent sans avoir nécessairement de cerveau. Cette forme d'intelligence, elle peut être consciente ou pas. Par exemple, la transhumance, elle est consciente, c'est les hommes qui la font. Les migrations des gnous sont pas conscientes. C'est les bestioles qui le font, mais c'est à peu près la même chose. Elle peut être individuelle ou collective. Individuelle, bah, l'exemple le plus bête, c'est la sudation, ou le cœur qui se met à battre. Bon. Ou elle peut être collective, c'est l'organisation des fourmis, des abeilles, des termites, il y a plein de choses, l'organisation des poissons en banc, etc. etc. Ou les partis politiques. Les... Faire attention, bon, d'accord. C'est toujours une réponse à un problème, c'est une réponse à une question. C'est ça, l'intelligence. La pensée, ça va au-delà. Elle n'est pas nécessairement la réponse à un problème. Elle peut tourner autour de choses comme la curiosité, l'envie, l'enthousiasme, l'empathie, l'amour et autres détails de la vie quotidienne, voire animale. Bon, c'est quelque chose qui nécessite un cerveau. Donc c'est infini. Donc, la pensée n'exclut pas évidemment l'intelligence, mais elle est beaucoup plus générale, elle est beaucoup plus subtile, disons. Elle est difficile aussi à axiomatiser, moi je ne sais pas faire. Mais je crois que dans l'usage courant, c'est correct de distinguer les deux. Alors, quel est l'intérêt d'une définition comme ça? Je me pose la question. Bah, derrière ça, ChatGPT va augmenter une double inégalité. D'abord, l'inégalité entre ceux qui ont accès au net et ceux qui ne l'ont pas. Bon, ça c'est banal, évidemment. Bon. Mais ensuite, parmi ceux qui ont accès au net, il y a ceux qui disposent d'un... capital culturel, comme disait notre ami Bourdieu, et ceux qui en disposent moins. Ceux qui ne disposent pas de capital culturel vont croire n'importe quoi de ChatGPT. Ceux qui ont un capital culturel, en principe, vont avoir le recul. Donc ceux-là vont vraiment profiter de ChatGPT parce qu'ils sauront trier le bon grain de livret sans problème. On ne prête qu'aux riches, en quelque sorte. Par contre, la majorité, enfin, une partie importante de gens sans ce bagage ou avec peu de bagages vont avaler n'importe quelle bêtise. Et ça, c'est une façon de... Alors, la réponse à ça, évidemment, naïve, ben, il faut que les gens soient plus cultivés. Ben, évidemment, c'est pas une petite affaire, ça. Ça regarde toute la société, c'est un truc de fond, évidemment. On peut penser à l'école, etc., bien sûr, mais enfin, c'est un peu, malheureusement, dérisoire, ça. En tout cas, ça implique... que la notion de culture générale, avec ChatGPT, est encore plus nécessaire que sans ChatGPT.
Donc, ce qui veut dire, en gros, c'est pas que tu conseilles, t'es pas là pour conseiller, mais disons que le bon usage de ChatGPT passe aussi par, à la fois d'un point de vue technique, la manière dont on va se servir le logiciel, en établissant les périmètres où on va aller piocher les données, et puis surtout l'utilisation qu'on en fait. Donc, ça rejoint quand même une discussion plus globale qu'on avait déjà eue ensemble sur derrière le logiciel et l'utilisation qu'on est faite de l'intelligence artificielle elle-même, c'est-à-dire qui n'est pas une fin en soi, mais qui reste un moyen, et tout dépend à quelle utilité sociale, à quelle utilité politique on la renvoie.
Évidemment, c'est-à-dire, mais ça c'est le sort de bien des nouveautés scientifiques, si on veut qu'elles deviennent des progrès scientifiques. J'ai peut-être une opinion minoritaire, mais je pense qu'il n'y a pas de découverte scientifique qui en soi soit négative. Elle dépend infiniment de la façon dont la société l'utilise. Les découvertes sur la taupe, par exemple, ne sont pas en soi négatives. Tu vas me dire, demande aux habitants d'Hiroshima. Bon, mais ils ont un point de vue très biaisé, évidemment. Pareil pour les OGM. Ça dépend ce qu'on en fait. L'insuline artificielle, c'est très important et c'est fabriqué à partir d'OGM. Enfin, bon, je crois qu'il y a une vision, malheureusement, un peu majoritaire dans la gauche, disons, sous cette forme, qui considère qu'il y a des inventions scientifiques qui sont tabous. Qui sont nécessairement négatives. Moi, je ne crois pas ça. Ça ne veut pas dire que... Bon, bref. Donc ça dépend essentiellement de la société.
Oui, que chaque chose peut être retournée. Je me souviens qu'on avait discuté ensemble de, alors, qui n'est pas une révolution scientifique, mais technologique, l'apparition de l'imprimerie de Gutenberg,
Exactement, a permis d'imprimer la Bible.
Qui était prévue que pour ça, à la base, c'est-à-dire la diffusion des Saintes Écritures et donc la diffusion de la pensée dominante de l'époque. Et on sait que depuis, le livre, et même d'ailleurs à l'époque aussi, a permis une utilisation subversive des écrits.
Absolument.
Thomas More sur l'utopie, ça vient très rapidement. Donc, toi, tu reviens sur cette idée qui consiste à dire de quelle est l'utilisation qu'on peut faire du numérique, de l'intelligence artificielle de nos jours, à un moment où il y a beaucoup de débats, alors avec une part de rationnel et d'irrationnel aussi. Il y a quand même pas mal de. Alors, je sais qu'il y a deux sujets, moi, que j'entends dans mon propre milieu assez, de manière récurrente, même dans les manifestations, les défilés sur les retraites, c'est assez surprenant. C'est de relancer le débat à la fois sur la question sociale et la question de l'emploi, c'est-à-dire quid de l'impact de ChatGPT sur un certain nombre de secteurs où en effet, il s'avérerait que l'utilisation du logiciel peut permettre de supprimer un certain nombre d'emplois sur des questions très ciblées, très précises, avec des marges d'erreur, semble-t-il, qui sont assez faibles. Et puis la deuxième, c'est est-ce qu'on crée un monstre avec le numérique, l'intelligence artificielle, entre les mains, en tous les cas, des GAFAM? Est-ce que dans tous les projets les plus fous qui sont revendiqués par certains théoriciens libertariens ou non de la Silicon Valley sur les compléments humains, le fait qu'on peut. Je me souviens qu'il y a ce livre qui s'appelle La dictature, l'homme nu, la dictature du numérique. Il faudrait repiocher les coordonnées exactes de cet ouvrage, mais qui détaillait par exemple les projets. Qui paraissent les plus fous, un peu dignes d'un mauvais James Bond, et qui sont pourtant étudiés de près par un certain nombre de chercheurs que Polaris a assez bien payés.
Très bien payé, merci pour.
Ouais, par ces multinationales. Toi, qu'est-ce que.
Je vais te dire un petit peu ce que je pense de ça.
Ouais.
Il y a des milliards de dollars qui sont consacrés à l'IA, ce type d'application de l'IA, avec l'idée qu'il ne faut surtout pas louper le coche. Bon. C'est fait de façon folle, sans réfléchir sur la portée de l'affaire. Alors que je pense que les milliards de dollars seraient beaucoup plus utiles dans l'éducation générale des citoyens. Bon, ça, c'est une question. Bon. Quel est l'argument des transhumanistes, c'est-à-dire des gens qui pensent qu'on peut augmenter, améliorer en quelque sorte le cerveau? Leur argument est comme ceci. Il faut être matérialiste. Nous provenons, nous, toi et moi et quelques autres, de stromatolithes existants il y a 3,5 milliards d'années, qui étaient des cyanobactéries, sans cerveau, sans. Bon, bref. Et nous sommes arrivés, à la suite de l'évolution, là où nous en sommes, à des êtres extrêmement civilisés, subtils, etc., etc.
On parle toujours de nous deux, là.
Bien sûr, essentiellement, surtout de moi d'ailleurs. Et nous ne croyons pas à une force vitale mystérieuse qui expliquerait ça. Donc ce chemin-là, on l'a bien parcouru. Pourquoi alors interdire de nouvelles améliorations du cerveau? La première réponse qui vient à l'esprit, c'est que très bien, mais on a mis 3 ou 4 milliards d'années pour obtenir ce résultat-là. Donc on a le temps. On répond à cet argument, un contre-argument. Oui, mais maintenant, à cause de ChatGPT, de l'IA et tout ça, ces expériences peuvent se renouveler extraordinairement vite et pas lentement. Et donc on gagne un temps fou. Exemple, le jeu de Go. Qui dispose de, je sais plus, 10 puissance 200 possibilités, c'est-à-dire infiniment plus que le nombre de particules de l'univers, bah, a été vaincu par les hommes, enfin, par quelques-uns en tout cas. Bon, et donc on sait traiter des problèmes extraordinairement compliqués. Et il a été traité à une vitesse énorme, énorme, énorme. Bon, pourquoi on n'aurait pas cette accélération aussi avec les nouvelles techniques? Alors, ça, c'est une vision un peu naïve qui imagine que le développement de l'humanité, qui ne comprend pas que le développement de la pensée a été contingent, c'est-à-dire est passé par une suite de bifurcations qui n'étaient pas nécessaires. Il se trouve qu'ils sont passés par là. Par exemple, c'est la vie qui a créé l'oxygène, c'est pas un détail, ça. Bon, ces bifurcations. Ces bifurcations ont été évidemment fondamentales, puisqu'on a dit avant que l'essentiel de l'évolution, c'est les bifurcations, c'est les surprises. Quand la machine examine les parties du jeu de Go, Elle les imagine très vite, en un milliardième de seconde, et elle passe à la suivante, très 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 vite. Dans la vraie vie, qui est un phénomène physique, les périodes de renouvellement prennent du temps. C'est-à-dire, il y a un temps physiologique, un temps biologique qui est inévitable. Quand de nouvelles espèces apparaissent, elles n'apparaissent pas en une fraction de seconde. Il faut un temps pour la lutte, pour l'alimentation, il faut un temps pour la reproduction, etc. Ça, c'est incompressible. Donc, l'argument du temps est un argument important, en fait. Donc, il y a un double argument contre ça. C'est ne pas comprendre que le développement de la vie et du cerveau a été contingent. Et deuxièmement, de ne pas comprendre qu'il y a un temps incompressible nécessaire à ce développement. Donc, rien n'assure la fabrication possible d'un cerveau de type nouveau. On n'en sait rien. On rentre dans le domaine du roman d'anticipation qui peut être intéressant. Les exoplanètes, par exemple, on sait qu'il y aurait des milliards de milliards de milliards. C'est impressionnant. Bon. Et ce serait bien le diable si dans ces milliards, il n'y en avait pas quelques-unes qui ressemblaient un peu à la Terre. Évidemment, infiniment trop loin pour qu'on les atteigne jamais. Mais on peut toujours imaginer qu'il y ait une forme de développement de la vie avec une intelligence incommensurable dont on n'a aucune idée. On peut toujours dire ça, on peut faire des romans, et c'est intéressant, y compris pour les scientifiques, d'étudier ça, mais on quitte le domaine de la rationalité, enfin, de la rationalité, disons, de type scientifique. Voilà.
Je me souviens que tu avais insisté dans comprendre sans prévoir et prévoir sans comprendre sur la rupture que ça signifiait même par rapport à l'histoire des sciences, c'est-à-dire de ce que j'en ai compris dans la discussion qu'on avait et puis à ta lecture, c'est que les sciences se sont construites principalement en se concentrant sur un élément, à le triturer dans tous les sens pour essayer de comprendre ces lois intrinsèques, je le dis avec mes mots à moi, donc c'est pas les bons, pour ensuite seulement essayer de comprendre la relation avec l'environnement. Et typiquement, c'est de cette manière-là qu'on fait des découvertes auxquelles on ne s'attend pas. Parce qu'on cherche d'abord à comprendre, et ensuite on peut se permettre éventuellement un certain nombre de projections conscientes, mais que là, il y aurait donc une forme de théorie en tout cas, alimentée par certains, toujours du côté de ces affreux du GAFAM dans ce secteur particulier, qui consiste à dire qu'on a suffisamment de données finalement pour zapper la période de la compréhension du détail et établir des moyennes dans tous les domaines, des probabilités, et donc chercher à prévoir a priori en excluant la compréhension.
Si tu veux, c'est à peu près ça, en sens où la science ne procède pas par accumulation de données. Ça, c'est une naïveté. Elle utilise évidemment des données, mais c'est pas, par exemple, j'aimais bien prendre l'exemple de Newton, il a fait la théorie de la gravitation. C'est pas en voyant tomber plus de pommes que ses copains. Il avait les mêmes informations que Copernic. Et Copernic, d'ailleurs, avait à peu près les mêmes formations que Ptolémée. Donc, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel, comme je disais, qui est le Eureka, en quelque sorte, que je ne sais pas expliquer, que personne, je pense, ne sait expliquer, mais qui est décisif. Croire que l'accumulation de données donne des résultats scientifiques, c'est d'une naïveté. La relativité, c'est pas un détail, quand même. Ne s'est pas fondée sur des expériences, pas du tout, pas une seule. Elle a été évidemment contrôlée expérimentalement, sinon c'est du bavardage, mais elle est venue de considérations sur les contradictions dans la théorie de Newton, et la relativité générale est venue de contradictions dans la théorie de la relativité restreinte. Bon, je pourrais te multiplier les exemples, il n'y a pas de... la théorie des quantas aussi, il n'y a pas de données qui donnent... Il n'y a pas de données qui... Et en plus... Bon, ça, c'est un peu un autre problème. Ce qu'on appelle données, en général, sont des prises. C'est-à-dire, ce n'est pas offert par la nature, c'est nous qui les choisissons. Et quelquefois, c'est biaisé, sans qu'on le veuille, mais c'est biaisé, parce que l'échantillon n'est pas représentatif. C'est un défaut que ne rencontrent pas les sociologues. Quand les sociologues font des enquêtes, ils opèrent par quota, pour éviter justement d'être prisonniers de biais de ce type-là. Et quand tu opères par quota, tu peux avoir une image relativement correcte avec des échantillons faibles, de quelques centaines ou quelques milliers d'exemples. Alors que les big data nécessitent des millions et des millions d'exemples pour pouvoir conclure. Avec l'idée naïve que s'il y a des millions et des millions d'exemples, on a évité les biais. Et ça, c'est souvent pas vrai du tout. Je pourrais donner plein d'exemples trompeurs, mais qui sont comme ça.
C'est parlant en tous les cas. Encore peut-être deux questions. Pour revenir sur la question sociale, je te le disais, là, je suis quand même assez surpris de voir que que je disais, ça fait couler l'encre, mais beaucoup de salive aussi. J'ai été interpellé à plusieurs reprises sur, de nouveau, alors c'est pas nouveau, hein, mais un regain de discussion dans le milieu des entreprises, notamment le milieu des services, de la place des machines, qui vont donc prendre un certain nombre d'emplois. Alors bon, nous, on a cette tradition récurrente qui veut qu'on ne confond pas la fin et les moyens, et que de la même manière qu'une découverte est là, tout dépend ce qu'on en fait. Elle pourrait typiquement, enfin n'importe quelle amélioration technologique pourrait permettre de se dire, bah, ça va nous permettre de travailler deux fois moins, par exemple, et donc de se partager le travail entre tous et tous. Mais disons que ce n'est pas la conclusion la plus rapide qui s'impose en général. C'est la crainte de se dire, ça nous prend des emplois en tant que ça nous prend des emplois. D'où cette suggestion qui m'est revenue et la question que je voulais te poser qui va avec, une proposition qui semble partagée, je ne sais pas sur quel type de mouvement faudrait vérifier, mais de faire cotiser les machines. Voilà, faire cotiser les machines. Alors, au-delà de ce qu'on pense de cette mesure-là, c'est l'idée plus substantielle derrière, qui renvoie d'après moi une illusion, évidemment, mais qui consiste à dire, est-ce que les machines, finalement, est-ce qu'on pourrait imaginer une société un peu dingue, où les machines créeraient donc d'elles-mêmes de la plus-value, c'est-à-dire des circuits entiers de l'économie, enfin suffisamment significatifs, où par exemple l'intelligence artificielle de A à Z prendrait un produit, un service, une richesse, une prestation, la valoriserait et ferait naître de la plus-value, ce qui serait pour le coup anti-marxiste, puisque les marxistes comme nous sommes convaincus que la plus-value renvoie à du travail volé, c'est-à-dire qu'on valorise une activité par le biais de notre force de travail manuelle ou intellectuelle, et cette valeur ajoutée va créer une plus-value, c'est-à-dire du profit en devenir, et qu'en première comme dernière instance, le profit, le bénéfice, c'est du travail volé, donc qui vient du travail humain. Et pas du travail des machines, qui même dans la conception marxiste aurait plutôt tendance à faire chuter de manière tendancielle le taux de profit. Donc est-ce qu'on est confronté à un dilemme théorique sur cette question-là, d'après toi ?
Je crois qu'il y a eu pas mal de textes là-dessus, mais d'abord je voudrais faire une remarque, c'est que sur la destruction d'emplois, l'IA crée beaucoup d'emplois, et des emplois de merde. C'est-à-dire le nombre de gens qui, à Madagascar par exemple, font du clicodrome payés, je ne sais pas moi, 1 euro de l'heure maximum, mais c'est fou, il y a des milliers de gens comme ça à Madagascar. Je prends Madagascar parce qu'ils sont plus ou moins de langue française, donc c'est... Enfin, bon. Donc ça crée de l'emploi, si j'ose dire. Un emploi de merde, mais un emploi quand même. Bon, et ça en supprime, par ailleurs, comme tu dis, c'est évident. Alors, sur la plus-value, il ne faut pas confondre les surprofits et la plus-value. C'est deux catégories, et les surprofits, c'est une catégorie concrète, précise. Ce qui me semble à moi évident, c'est qu'on peut faire payer les patrons qui font des surprofits. Pour une raison ou pour une autre, il faut les faire payer. Dire qu'ils ont fait de la plus-value, la plus-value, c'est une notion générale, c'est-à-dire elle est répartie ensuite. Enfin, derrière ça, il y a une idée humaniste du marxisme, si j'ose dire, à savoir que ce que cherchent à faire les sociétés humaines, c'est minimiser la peine et l'effort. De ce point de vue-là, ce qu'on comptabilise, c'est le travail humain. Pas le travail des bœufs, pas le travail des fourmis, même si... les physiocrates pensaient, par exemple, que le soleil... comme il faisait pousser les plantes, introduisait quelque chose de plus. Et ce n'est pas le travail de paysan. C'est, bon, c'est une conception qui n'est pas du tout la nôtre, évidemment. Donc, c'est bon. Alors, il faut réfléchir un peu à ça. C'est une bonne question, mais...
Parce que c'est une question qui me travaille, moi. Mais c'est vrai que, par ailleurs, de toute façon, même dans le rêve le plus fou des libertariens dont je parlais, avoir une société où seules les machines et l'intelligence artificielle assurent l'activité du travail, si une telle société devrait voir le jour, de toute façon, elle s'appellerait tout sauf société capitaliste. Parce que,
ça, je n'y crois pas, parce que la plus-value est toujours créée par les secteurs qui, eux, en fabriquent réellement, et répartie différemment, bien sûr. Dans l'agriculture, par exemple, que je connais un petit peu mieux, il y a pas mal de plus-value qui est créée, parce qu'il y a beaucoup de travail humain. Et en principe, elle devrait lui échapper à cause de la péréquation du taux de profit. Elle ne lui échappe pas parce qu'il y a une propriété privée des terres. Et donc, il y a une situation de monopole, ce qui fait que les capitalistes terriens, si j'ose dire, peuvent conserver leur plus-value. Pour indiquer simplement que le mécanisme de plus-value est subtil. Enfin, est subtil. Il est conceptuellement plus subtil. Je crois Moi, je serais choqué de dire que les machines font de la plus-value, parce que je ne veux pas être fabrique de la plus-value. Elles peuvent aider. Mais...
C'est ça, comme un moyen d'augmenter les marges de la valorisation, absolument.
Alors, c'est la plus-value au profit, pas la plus-value. Il faut vraiment distinguer les deux. Bon, il faut que je réfléchisse davantage.
Ben, on réfléchira ensemble à cette question-là. Dernière question, est-ce qu'on peut imaginer, ou est-ce que toi, tu t'es déjà projeté sur cette question-là, sur une utilisation humaniste et socialisante de cet outil qui permet en effet de collecter des données. Est-ce qu'on doit l'inscrire ou pas dans nos nombreuses questions stratégiques qu'on a à repenser, ou à penser tout court ?
Bien sûr, ça me paraît évident que des trucs genre ChatGPT ou autre améliorés parce que la forme actuelle font partie du patrimoine de l'humanité, c'est évident, évident d'ailleurs. Dans la recherche scientifique, par exemple, il n'y a pas un seul domaine, enfin, il y a très peu de domaines qui échappent à ça. C'est impensable. Alors, encore une fois, je comprends bien que la recherche scientifique, c'est une fraction dérisoire de l'activité intellectuelle humaine. L'écrasante majorité de l'activité intellectuelle humaine, elle est consacrée à des affaires, dans le monde entier, j'entends Asie, Afrique, etc., Asie, à des considérations religieuses, magiques, médicales, financières, etc., etc., et une fraction dérisoire à la science. Mais n'empêche que la science est décisive, c'est ça, même si c'est minoritaire, elle est décisive. Et c'est évident que ça va jouer un rôle de plus en plus croissant. Même si, encore une fois, ChatGPT et l'IA servent essentiellement à anticiper sur les profits, qui font ça d'ailleurs plus ou moins bien, hein, anticiper. Mais anticiper, c'est pas comprendre, c'est tout à fait autre chose.
Eh ben, merci à toi pour cette conclusion et pour tout. Toutes tes explications que même moi j'ai compris l'un et l'autre.